Avant de commencer, cet épisode est issu d'une longue série dédiée à comment gérer un rayon en grande distribution. Aux côtés de Philippe Rovira, consultant et formateur spécialisé, nous revenons sur les grandes questions concernant la vie d'un employé et d'un manager en magasin. On y parle de gestion, de merchandising ou encore de management. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux et à vous inscrire à la newsletter du podcast pour ne manquer aucun épisode. Suite de notre série sur comment gérer un rayon avec toi, Philippe, on va basculer sur un sujet qui intéresse beaucoup de nos managers qui nous écoutent. Comment être plus performant dans ces négociations commerciales? Tu vas nous expliquer effectivement qu'une négociation, c'est pas uniquement l'instant T face à son interlocuteur. C'est beaucoup de travail en amont et beaucoup de préparation notamment.
Oui, effectivement, Jonathan. Alors, même au niveau local, alors n'en parlons pas lorsqu'on négocie au régional ou au national, bien sûr, la phase de préparation est encore plus déterminante, mais même lorsqu'on négocie dans un point de vente avec nos petits ou moyens fournisseurs, il faut se préparer. Voilà, il faut déterminer des objectifs, il faut préparer de la contre-objection, il faut préparer de la contrepartie que l'on va demander. Tu vois, tout ça, ça se chiffre, ça se quantifie et ça s'anticipe. Et donc, dans le cadre de cette préparation, j'ai envie de te dire, la première des choses, c'est d'oser négocier. On l'a déjà évoqué dans un autre podcast. On a souvent cette barrière psychologique de nous dire, bon, ça se fait pas, je peux pas demander, je peux pas aller jusque là. Oui, il faut casser en fait ces freins là et ne pas hésiter à demander. Et je vais même être encore plus précis. Lorsqu'on est en négociation avec un fournisseur direct, 100% direct, donc aucun référencement régional ou national notamment. Lorsque le fournisseur arrive avec ses conditions générales de vente, finalement, toutes les lignes de ses CVV sont négociables. Tu vois, on peut aller même jusque-là. Alors, on manquera de temps, on ne peut pas passer 4 heures à l'échelle locale avec chacun de nos fournisseurs, mais tu vois, on pourrait aller jusque-là. Donc, oser négocier, c'est vraiment la première chose qu'il faut se dire et s'y préparer psychologiquement. La deuxième chose, c'est se préparer au refus, en fait. Alors, les fournisseurs, d'ailleurs, comme nous, acheteurs, forcément, alors, ils auront des limites qui seront réelles, plus ou moins réelles. Lorsque vous leur demanderez quelque chose, ils vous diront, ils utiliseront la technique du parapluie, c'est-à-dire, ils vous diront, mon directeur commercial, la politique commerciale de mon entreprise ne me permet pas d'eux. Voilà, ça, c'est un grand classique. Il faut pas s'arrêter. C'est une parade qui est normal, comme nous, acheteurs, lorsqu'on va nous faire une demande, je sais pas, de tête de gondole, de multiplication de facings dans le fond de rayon, on va tout de suite mettre les freins et dire non ou demander tout de suite une contrepartie. Donc, s'habituer au non, s'habituer au refus, c'est pas la fin de la négo, c'est pas la fin de l'échange. Au contraire, je te dirais même, ce n'est que le début. Donc, voilà deux premiers points. Autre chose aussi, Jonathan, c'est la communication qui est très importante. Il existe deux types de communication. La communication verbale, les mots que nous utilisons, sujet, verbe, complément. Et il existe aussi, et c'est celle-ci qui est bien plus importante, la communication non verbale. Et dans la communication non verbale, il y a deux autres types de communication. La communication visuelle, c'est-à-dire le comportement, l'attitude de ton interlocuteur, et la communication paraverbale, c'est-à-dire sa voix, sa tonalité, sa force de voix, son glédit. Lorsqu'on cumule la communication visuelle avec la communication paraverbale, d'après certaines études scientifiques, on peut avoir plus de 90% du message qui passe par cette dernière. Ce qui est considérable. Ça veut donc dire quoi? Si on est en permanence concentré sur des chiffres, sur son petit bout de papier où on a préparé quelques bricoles pour la négociation et que on n'observe pas, on n'écoute pas suffisamment son interlocuteur, ça veut donc dire qu'on risque de passer à côté d'une grande majorité d'informations qui pourraient nous être très utiles dans le cadre de notre négociation.
C'est ce qu'on appelle aussi un peu la PNL, programmation neurolinguistique, qui dit justement beaucoup de choses de l'individu, des tics nerveux, par exemple, les rires nerveux. Ça donne déjà une indication aussi sur son interlocuteur. En bien ou en mal, d'ailleurs.
Ça fait partie, effectivement, de la PNL. Et ce que tu dis là, ce que tu évoques là, c'est ce qu'on appelle la synergologie. La synergologie, c'est cette science qui interprète les gestes, l'attitude d'une personne. Et les acheteurs au national sont tous formés en synergologie. Alors, certes, la science est contestée par certains scientifiques, validée par d'autres. J'ai énormément travaillé sur le sujet et je m'en suis toujours servi dans le cadre de mes négociations. Alors, pour être très synthétique, je vais te donner un exemple. D'abord, il ne faut pas s'arrêter que sur une seule observation, car elle ne veut rien dire. Il va falloir observer entre 3 et 5 observations pour être certain que la personne est dans cet état d'esprit, dans cette disposition-là. Et à partir de là, lorsque tu as recoupé donc plusieurs observations, tu peux te dire oui, là la personne est en train de me mentir, oui, la personne est en train d'exagérer, oui, là elle en a sous le coude, etc. Et je te donne, il y a plus de 2500 interprétations possibles. Hein, c'est pour te dire que c'est absolument large et profond. Je vais te donner un seul exemple. Lorsque tu as ton interlocuteur, et on est bien d'accord, il en faut 4-5 exemples pour confirmer la règle, pour confirmer cela. Lorsque tu as ton interlocuteur face à toi, tu es en train de lui demander de la marchandise gratuite, tu es en train de lui demander, bref, un geste commercial, et cette personne, tout en te répondant que cela n'est pas possible, que ça se fait pas, qu'ils ont jamais fait ça dans l'entreprise, cette personne est en train de toucher son nez, notamment le côté de son nez avec son index, avec son pouce replié d'ailleurs souvent. Là, c'est clair, ça c'est un signe qui est flagrant de mensonge, un signe où la personne nous dit pas tout, nous cache une partie de la vérité. Tu vois, la synergologie, l'interprétation de la communication visuelle est, à mes yeux, fondamentale dans tout échange, en management d'ailleurs aussi, mais et bien évidemment dans le cadre d'une négociation commerciale.
Alors, une négociation bien préparée, c'est aussi définir des objectifs. C'est la base de tout.
Ah oui, et oui, parce que on peut pas arriver comme ça la fleur au fusil. Alors certains te diront oui, moi j'ai du bagou, j'ai de l'expérience, je sais faire. Alors, peut-être ils n'échoueront pas, certes, grâce à leur expérience, mais en tout cas ils n'atteindront pas peut-être leur objectif. En tout cas, ils ne seront pas performants dans la négociation. Un objectif, c'est quoi? C'est de se dire voilà, qu'est-ce que je veux atteindre moi, quantitativement, qualitativement. C'est se poser un certain nombre de questions. Comme autre question, on peut se dire aussi qu'est-ce que mon interlocuteur souhaite attendre de cette négociation. Ça aussi, il faut s'y préparer. Donc, les objectifs de la partie adverse. Il faut se dire aussi qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Jusqu'où je peux descendre. Autre chose qu'il faut se préparer également, c'est l'entame. Je vais demander quoi au départ? Toujours avec une marge de manœuvre, bien évidemment, dans le cadre de la négociation. Tu vois, également aussi, tiens, se préparer sur l'argumentation qu'on va utiliser. Car même si on est acheteur et acheteuse, même si on a le dernier mot et on dit oui ou non, dans un modèle gagnant-gagnant, puisque je préfère m'inscrire dans ce modèle-là, complémentarité avec son interlocuteur fournisseur, il faut souvent expliquer pourquoi on demande telle ou telle chose. De la gratuité, une animation, dégustation, etc. Et dans ces cas-là, il faut argumenter pour légitimer ces demandes. Ça aussi, ça se prépare. Tu vois, donc c'est pour ça que on considère que 80% de la réussite d'une négociation se fait grâce à une bonne préparation. Tout ce qu'on est en train d'évoquer, et on va continuer à le faire, le démontre.
On parle aussi de style de négociation, parce que c'est pas uniquement un jeu de rapport de force. Une négociation, c'est aussi un échange professionnel entre deux personnes. Quels sont pour toi les différents styles de négociation? Est-ce qu'il faut forcément être dur? Est-ce qu'il faut forcément être froid, tel qu'on a tendance un peu à le décrire? C'est quoi pour toi un style et comment on le définit?
Alors, chacun aura sa personnalité, forcément, pour attaquer un échange. Mais c'est vrai que, on dit souvent qu'une négociation, c'est une partie de poker menteur, on joue un rôle, et ça, c'est une réalité. Donc, c'est pas parce qu'on est un peu dur, un peu vif, qu'on l'est naturellement, on s'inscrit dans un rôle, dans le cadre d'une négociation. Alors, il y a 4 styles de négociation qui existent, en fait. Il y a ce qu'on appelle le perdant, acheteur, gagnant, fournisseur. Lorsque le fournisseur a une situation de monopole, lorsque le fournisseur s'impose à nous, on est obligé de l'avoir dans nos linéaires parce que si on n'a pas sa référence, on va perdre du flux, on va générer de l'insatisfaction. Et dans ces cas-là, il a une position de domination sur l'acheteur. Alors, c'est le cas avec les grands groupes, bien évidemment, hein, où même les acheteurs nationaux peuvent éprouver des difficultés à négocier des choses, d'où des déréférencements qui tombent régulièrement dans les différentes enseignes. Un autre style, c'est le gagnant-perdant, donc gagnant-acheteur, perdant-fournisseur, où là, on a l'acheteur autoritaire, l'acheteur qui impose et qui demande d'emblée de la valeur, qui se soucie peu des conséquences économiques pour le fournisseur de cette négociation. Alors, je ne m'inscris pas dans cette dynamique-là et je n'invite pas également nos interlocuteurs à s'inscrire surtout localement dans cette logique-là. Je préfère amplement m'inscrire dans du gagnant-gagnant. Je te l'ai évoqué tout à l'heure. Et dans le gagnant-gagnant, il y a deux approches. Il y a une première approche qui est considérée comme assertive, c'est-à-dire on va chercher à couper la poire en deux, à faire en sorte que la profitabilité soit identique entre l'acheteur et le fournisseur. Pourquoi pas? Je te dis oui automatiquement lorsqu'on a face à nous un fournisseur qui a un petit fournisseur qui est en difficulté notamment, ou un tout petit fournisseur, où là on va chercher à préserver sa profitabilité pour qu'il puisse vivre là tout simplement et qu'il continue à nous approvisionner d'ailleurs. Je préfère bien sûr avec les plus grosses TPE et notamment les PME, et ne parlons pas des grands groupes, être dans ce qu'on appelle un style de négociation gagnant-gagnant efficace. Dans ces cas-là, si on peut tirer un tout petit peu la couverture sur soi, on y va. Voilà, si on voit une opportunité, si on voit une brèche pour générer un déséquilibre de profitabilité qui nous est légèrement favorable, légèrement, sans altérer trop la profitabilité de son interlocuteur, encore une fois, il faut qu'il puisse vivre également, convenablement, comme nous. Dans ces cas-là, on tire la couverture un peu plus sur soi. Voilà, c'est ce vers quoi je m'inscris. J'ai toujours incité mes managers à s'inscrire de la sorte.
D'où l'intérêt, tu parles un peu de petits, de grands groupes, d'où l'intérêt de bien connaître aussi le profil de celui qu'on a en face de soi.
Oui, alors le profil, notamment en termes de poids, le poids de son interlocuteur sur le marché, le poids de notre interlocuteur sur nos achats, qu'est-ce qu'il représente chez lui, ça aussi, voilà, savoir quel est qui a le pouvoir finalement sur la négociation, quel est l'enjeu de cette négociation. Ça, c'est le contexte de l'achat. Après, j'invite également nos interlocuteurs au maximum à avoir une idée la plus précise possible du profil de l'interlocuteur, du négociateur face à soi. Alors ça, c'est d'office quand on négocie au national et au régional. Au niveau local, on peut essayer de déterminer le profil de personnalité au travers du réseau que l'on a, au travers de nos précédents échanges qu'on a eu avec ce fournisseur-là, mais également au début de l'échange, quand on le connaît pas, dans cette fameuse phase qu'on appelle la phase de découverte de son interlocuteur, découverte des besoins des deux parties prenantes. Et là, on va poser un certain nombre de questions, on va observer. N'oublions pas de bien décoder la communication non verbale et on va se rendre compte d'un profil de personnalité. Dans ces cas-là, on peut utiliser deux méthodes. Alors, nos fournisseurs utiliseront la méthodologie SONCAS qui est traditionnelle dans les techniques de vente. Nous, on utilisera aussi la technologie comme eux d'ailleurs, la technique des profils à couleurs, la méthodologie DISC. Tu en as très certainement entendu parler. Moi, je la trouve formidable, cette méthodologie. Elle est simple d'utilisation et très efficace. Donc, en fait, on considère qu'il y a quatre grandes personnalités, profils de personnalité. Et une fois qu'on a appréhendé le profil, on va pouvoir adapter sa communication, ses demandes, bref, son style d'échange et de communication. Il existe donc quatre couleurs. Je laisserai nos auditeurs se pencher. Il y a des tas d'articles qui traitent du sujet, mais je vais te donner un exemple pour te montrer qu'il ne faut pas se laisser berner par nos fournisseurs parce qu'ils sont formés sur ces thématiques-là. Et forcément, parfois, on va croire que notre échange est extrêmement fluide, que notre interlocuteur fournisseur nous comprend, nous entend, est sympathique, oui, sauf que tout est déjà archi prévu. Ils ont travaillé un argumentaire totalement adapté à notre personnalité d'acheteur et pour pas nous froisser et pour nous donner justement l'impression que tout est fluide et faciliter l'acte d'achat. Je te donne un exemple. Les profils bleus sont considérés comme des organisateurs nés. Ils planifient tout. Ils ont une approche toujours très séquentielle. Ils anticipent. Ils aiment pas le hasard. Ils aiment vraiment anticiper et planifier leur activité. Donc, ça veut dire quoi? Si un fournisseur arrive face à un bleu, et lorsque le bleu achète, et lorsque le bleu lui demande « quand est-ce que tu vas me livrer la marchandise ?», si par malheur le fournisseur lui dit « oh, tu sais, probablement courant de semaine prochaine, tu devrais recevoir ta marchandise. Mais ça, ça va horrifier un bleu. Le bleu attendra le discours. Tu auras ta marchandise lundi 18 décembre à 8h sur ton quai. Et d'ailleurs, je ne manquerai pas de vérifier le bordereau de livraison émargé pour être certain qu'il n'y ait pas d'anomalie. Tu vois, ça, c'est un discours que le bleu attend. Et donc, forcément, le fournisseur, s'il sait que l'acheteur est un bleu, il va lui servir ce discours-là comme tant d'autres, totalement calé aux attentes, à la personnalité. Donc, ne nous laissons pas berner par nos fournisseurs qui ont ces techniques-là en tête, sont formés sur ces techniques-là. Et soyons prudents lorsqu'on sent notamment que tout est fluide. C'est peut-être aussi tellement bien travaillé en amont par nos interlocuteurs.
Il y a un point important, on va revenir maintenant, mais je trouve que beaucoup de managers ne connaissent pas suffisamment bien le marché et les produits qu'ils vendent. Je ne sais pas si c'est un constat que tu fais, et je sais que c'est un point important dans la négociation également.
Ben oui, parce que il te faut connaître les tendances de marché, les tendances de consommation. On va forcément avoir des prix plus élevés lorsque le produit est plus rare, lorsque le produit tourne énormément, où tout le monde se l'arrache. C'est le jeu de l'offre et de la demande. Il faut également connaître ce qui se passe sur le marché, ce qui se négocie, quel est le taux de remise moyen qu'on peut avoir sur telle famille de produits, qu'est-ce qui est proposé par les autres fournisseurs. Tu vois, toute cette veille-là, au travers de nos contacts, de nos échanges que l'on peut avoir avec d'autres fournisseurs, avec nos managers N+1, avec nos collègues, nos homologues dans d'autres points de vente, on va pouvoir échanger un peu pour savoir ce qui se passe sur le marché. Et d'ailleurs, à ce sujet, cet état de veille est fondamental, surtout dans le cadre d'une préparation, d'une négociation. Et cette veille peut également être alimentée par des revues de marché. Alors, la terminologie sera différente en fonction des enseignes, mais les catégories managers vont nous communiquer des informations de tendance de consommation, de part de marché des différents fournisseurs sur toutes les familles de produits que nous gérons. Alors, ce sont des outils que nous utilisons dans le cadre des réimplantations, donc de notre merchandising, mais nous pouvons également utiliser ces données-là qui nous sont communiquées via des services internes, bien sûr, de communication, pour appréhender le marché et ce qui s'y passe. Voilà, donc oui, c'est fondamental et c'est valable pour nos interlocuteurs. C'est comme si nous, on achète à un fournisseur et on lui pose une question technique sur le produit qu'il est en train de nous vendre ou sur le marché dans lequel il s'inscrit, et ce dernier n'a pas de réponse à notre question. Ça va pas franchement nous donner confiance en lui, en sa dextérité, et on va peut-être s'éloigner de l'achat le concernant. Tu vois, on attend aussi une relative maîtrise. Alors, on ne peut pas tout connaître, on est d'accord, mais une maîtrise minimale de son sujet qui doit s'imposer.
Avant, dernier point sur ce podcast, sur comment bien préparer sa négociation. Il faut bien choisir aussi ses arguments de son côté, justement pour, entre guillemets, contre-attaquer, même si j'aime pas trop le terme. Son interlocuteur. Qu'est-ce que tu penses justement de cette sélection de bons arguments à avancer?
Oui, il y a une argumentation comme nos fournisseurs d'ailleurs. Les fournisseurs vont préparer un argumentaire commercial pour nous convaincre que leur produit ou leur service est le meilleur, voilà, et qu'il faut l'acheter. Mais nous, ça va être la même chose. On va travailler un argumentaire à la fois pour légitimer nos réponses négatives, mais également pour légitimer nos demandes. Et là, je vais attirer ton attention sur certains points qu'il va falloir carrément lister en amont. C'est par exemple les concessions et les contreparties. Quelles sont les concessions que je vais pouvoir faire? Parce qu'il va falloir en faire. À un moment donné, si on veut obtenir une animation dégustation, si on veut obtenir de la gratuité, bref, tout ce qu'on va négocier avec notre interlocuteur, il faut qu'il y ait un retour d'ascenseur, inévitablement. Il faut qu'on joue le jeu, nous aussi. Donc, l'objectif, c'est de ne pas se laisser imposer les concessions par notre interlocuteur. Voilà, notre interlocuteur va nous demander parfois l'impossible, va nous demander des choses. On va volontairement se dépositionner par rapport à ces demandes-là et nous allons lui suggérer ou leur suggérer des concessions que l'on aura choisies. Ça, c'est intéressant. Et pour les contreparties, c'est pareil. Ne nous laissons pas imposer les contreparties. Donc, une contrepartie, donc je fais une concession et je demande donc quelque chose en contrepartie de la concession que je viens de faire. Le fournisseur, très souvent, ça sera la règle. Ils sont formés pour ça. Ils vont nous dire non, je suis désolé, monsieur Le Borgne, je peux pas vous apporter cela. La politique commerciale de mon entreprise ne me permet pas. Par contre, je peux vous proposer ceci. Ne nous laissons pas abuser par ça. Tu vois, Jonathan, quand le fournisseur va volontairement, il va faire en sorte de te donner ce qui et le moins onéreux, ce qui est le plus facile pour lui. Donc, préparons aussi des contreparties que nous allons demander, voire exiger dans le cadre de nos échanges. Et enfin, je terminerai par les objections. Lorsqu'on va faire une demande à notre interlocuteur, il va très certainement objecter. Essayons d'anticiper les objections pour pouvoir préparer des contre-objections. Voilà, plus on aura, et nos fournisseurs vont faire exactement la même chose. Ils vont se dire, voilà, que lorsque je vais leur demander ça, allez, par exemple, je vais leur demander une tête de gondole pour pouvoir mettre en avant ma nouvelle gamme de produits, probablement mon acheteur, manager de rayon, va me dire qu'il ne peut pas parce qu'il a une question promotionnelle importante en ce moment, ou il ne peut pas parce que, bref, il va anticiper l'objection pour essayer de travailler une contre-objection afin, bien sûr, d'avoir au final une réponse positive à leur demande initiale. Donc, nous, on doit également faire la même chose, anticiper les objections auxquelles on va être confronté et préparer des contre-objections.
Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment, un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou Ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt !